Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie ou de certains qui ont réalisé des actions fortes. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie et de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Nous allons aujourd'hui à la découverte d'un homme de grande valeur. C'est Guillaume Fichet, ou l'histoire du premier livre imprimé en France. Peu de gens connaissent cet humaniste né en 1433 au Petit Bornan, dans le duché de Savoie. Issu d'une famille plutôt aisée, Guillaume Fichet effectue ses études à La Roche, puis au collège Saint-Nicolas d'Avignon, fondé par le cardinal Jean de Brogny, originaire d'Annecy, établissement qui accueille une vingtaine de boursiers savoyards. Élève brillant, le garçon rejoint ensuite Paris vers 1450, entre à la Sorbonne, devient docteur en théologie qu'il enseigne ainsi que la philosophie et la rhétorique. Parlant couramment le latin, écrivant avec élégance, Guillaume Fichet, élu recteur puis bibliothécaire de la Sorbonne, rencontre un collègue allemand, Jean Heinlein, en provenance de l'université de Bâle qui lui vante les progrès récents de l'imprimerie. En effet, dans son pays à Mayence, Johann Gutenberg a mis au point un nouveau système mécanique de reproduction des livres en employant des caractères mobiles en métal à la place de ceux en bois utilisés des siècles en arrière en Extrême-Orient. Ici, de la culture du chanvre, comme celle du lin, le papier remplace doucement le parchemin, tandis que les encres plus grasses, capables d'enduire les caractères, sont élaborées. À ces annonces, le Savoyard manifeste un bel enthousiasme, lui qui sait d'expérience que la demande en écrit de toutes sortes va croissante. Diffuser le plus largement possible le savoir reste sa motivation principale, mais il n'oublie pas que l'Église reste méfiante, que les moyens financiers et matériels risquent de manquer, et il devine donc que la partie est loin d'être gagnée. Lui revient alors en mémoire sa rencontre avec le roi Louis XI, monté sur le trône de France en 1461. Pacifiste dans l'âme, Guillaume Fichet avait prononcé quelques années plus tard, devant le monarque, un vibrant discours contre l'enrôlement des étudiants. Réputé pour sa ruse et pour sa froideur, le souverain l'avait toutefois écouté sans l'interrompre, puis s'était finalement laissé convaincre. Dans ces conditions, pourquoi ne pas tenter une nouvelle fois sa chance auprès de celui qui détient le pouvoir et les cordons de la bourse, que l'on dit par ailleurs ouvert aux innovations techniques, aux talents d'où qu'ils viennent, notamment d'Allemagne ou d'Italie, en pleine Renaissance. En 1468, Guillaume Fichet sollicite une audience royale et à sa grande joie, Louis XI accepte de le faire venir à Paris, la première presse à imprimer ainsi que des ouvriers typographes formés à Mayence. Nul doute que le roi, qui aime à décider de tout, saisit d'emblée les avantages que présente cette nouvelle arme de transmission et de propagande. Impatient de fournir à leurs étudiants des manuels de bonne qualité, Fichet et Heinlein travaillent plus que jamais en équipe. L'affaire est rondement menée. Trois compagnons germaniques arrivent l'année suivante avec leur boîte de poinçons en métal et leur moule à fondre les caractères. On fait également venir d'Allemagne une presse à imprimer identique à celle inventée par Gutenberg vers 1455. Tout ce petit monde s'installe dans le cloître de Saint-Benoît, une dépendance de la Sorbonne. De fait, premier atelier d'imprimerie du Royaume de France. Ce procédé se développe aussi en Alsace, situé alors dans le Saint-Empire romain germanique. Avec ses compatriotes qui font preuve d'un étonnant savoir-faire, Heinlein s'occupe de la partie technique, des travaux, tandis que Guillaume Fichet se concentre sur l'aspect littéraire de l'œuvre. À la fin de l'automne 1470, le premier livre jamais imprimé en France voit le jour. Tiré à une centaine d'exemplaires, enluminé ensuite à la main, l'ouvrage ne comporte ni pagination ni titre. In quarto de 118 feuillets composés de 22 lignes à chaque page, laissant de larges marges sur les côtés. Le papier est épais, le texte un recueil de lettres, epistolea, en caractère romain rond, bien lisible, provient d'un auteur italien, Gasparin de Bergame. Comme tout livre publié en Europe avant 1500, on le désigne sous le terme d'incunable. Celui-ci s'achève par un colophon, que dirige en latin Guillaume Fichet et dont la traduction est la suivante. De même que le soleil répand toute la lumière, ainsi à Paris, capitale du royaume et nourricière des muses, tu verses la science sur le monde. Reçois donc en récompense cet art d'écrire presque divin qu'inventa l'Allemagne. Voici les premiers livres produits par cette industrie sur la terre de France et dans tes propres murs. Les maîtres Michel, Ulrich et Martin les ont imprimés et ils en feront d'autres. Louis XI en personne vient sur place pour saluer l'événement. Suivra une vingtaine d'ouvrages, dont un traité de rhétorique rédigé par Guillaume Fichet. Très pieux, ce dernier rêve, après les cuisantes défaites de Nicopolis et de Varma, d'une nouvelle croisade pour libérer Constantinople du joug ottoman. Il s'en ouvre d'abord à la maison de Savoie, qui se borne à l'écouter poliment, puis à Louis XI, qui tergiverse avant de renoncer à ce genre d'aventure. Extrêmement déçu, Fiché quitte la France dès 1472 et gagne Rome. Pendant ce temps-là, Jean Hennelin abandonne lui aussi Paris et retourne dans son Allemagne natale, au contraire des trois typographes germaniques qui déménagent l'atelier rue Saint-Jacques où s'installeront d'autres imprimeurs libraires. Au Vatican, Guillaume Fiché est nommé camérier. Attaché au service du pape Sixte IV, nouvellement élu, lequel consacre ses premiers efforts à la guerre contre les Turcs, mais à l'image de ses prédécesseurs, il connaît l'échec lui aussi. Guillaume Fiché meurt de maladie entre 1485 et 1490. Nulle trace, en effet, de la date précise de son décès. Quelques années plus tard, un de ses anciens élèves, à la Sorbonne, écrit de son professeur « Heureuse la Savoie d'avoir nourri un tel enfant, qui sera pour les peuples de langue française un honneur à jamais ». Un exemplaire du premier incunable imprimé à Paris en 1470, grâce à ce savoyard visionnaire, est conservé à la réserve des livres rares et précieux de la Bibliothèque nationale de France. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et surtout, à une prochaine fois.